Grand Angle sur Radio Orient.
Notre grand angle du jour est consacré au désarmement des camps de réfugiés palestiniens au Liban, qui va commencer à la mi-juin sur la base d'un accord avec le président palestinien Mahmoud Abbas en visite officielle au Liban. Pour analyser la situation, François Costantini, docteur en sciences politiques et spécialiste du Liban. François Costantini, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans un premier temps le contexte historique qui explique la présence d'armes dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban? Et comment est-ce que cette situation a évolué?
Pratiquement 55-56 ans en arrière, aux accords du Caire de 1969, à la suite notamment de 1967, la guerre des six jours, les Palestiniens avaient été expulsés, notamment par l'OLP, enfin, les Palestiniens avaient été expulsés de Gaza et de Cisjordanie, avaient trouvé refuge notamment en Jordanie et au Liban, où ils étaient proportionnellement la population palestinienne la plus nombreuse par rapport à la population totale. Et ces accords du Caire, alors qui avaient été décidés un peu à la vite par le chef d'état-major de l'armée libanaise, Émile Boustany à l'époque, avec les Palestiniens, consistaient à réglementer la présence palestinienne au Liban, notamment autoriser déjà l'armement des Palestiniens, de l'OLP à l'époque, et également ces mouvements. Ces accords d'ailleurs du Caire qui ont été très critiqués parce qu'ils faisaient de l'OLP pratiquement un état dans l'état, et qui sont d'ailleurs directement à l'origine de la déflagration de 1975, hein, on a entre guillemets, célébrer les 50 ans de la guerre du Liban le 13 avril dernier. Donc, ces accords du Caire, en effet, avaient été à l'origine du drame libanais. Et là, visiblement, la volonté qu'il y a, d'entamer le désarmement des camps palestiniens, alors je voudrais dire, en effet, qu'on revient sur l'accord du Caire.
Et quelles sont les principales forces armées qui peuvent être présentes dans ces camps aujourd'hui? Et c'est quoi leur relation avec les autorités libanaises?
La particularité au Liban, c'est que l'OLP, le Fatah, garde quand même largement la main. Il n'y a pas, par exemple, le Hamas était très peu présent. Par contre, ce que vous avez, ce sont des groupes islamistes radicaux, comme par exemple dans le camp de Nared Bared avec le combat qu'il y avait en 2007, voire Al-Qaïda et Daesh, mais surtout Al-Qaïda, qui sont présents. Disons que l'OLP a quand même davantage la main sur les camps palestiniens, mais le contrôle est de plus en plus difficile, sachant également qu'il n'y a pas seulement la présence armée des Palestiniens, il y a le statut des Palestiniens. Une bonne partie de la classe politique et des communautés, vous savez qu'au Liban, le fait communautaire est essentiel, et de la population s'oppose notamment à ce qu'on appelle l'implantation, c'est-à-dire de donner aux Palestiniens une nationalité libanaise, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que beaucoup de forces politiques au Liban considèrent que ce serait en fait répondre à une demande israélienne, c'est-à-dire libaniser les Palestiniens pour empêcher tout droit au retour dans ce qu'était la Palestine fondateur. Ensuite, il y a un fait également communautaire assez essentiel, c'est que en effet les chrétiens proches à l'intégration des Palestiniens, qui sont dans leur quasi-totalité d'ailleurs aujourd'hui sunnites, que cela entraînerait un déséquilibre à leur désavantage, et également opposition de poids qui n'est pas négligeable, ce sont les chiites, notamment le Hezbollah, hein, qui reste quand même assez fort au Liban, même s'il a pris des coups énormes avec la guerre contre Israël et qu'il est plutôt en recul sur le terme de décision politique. C'est que on ne veut pas entendre parler d'implantation des Palestiniens qui irait dans le sens du projet israélien, même chose, mais également parce qu'au Liban Sud, les chiites ont toujours montré une certaine hostilité, notamment à la présence palestinienne armée. N'oublions pas que pendant la guerre du Liban, il y a eu de très très nombreux affrontements, alors que la Syrie encourageait, notamment entre les groupes chiites, Hamas et le Hezbollah, contre dans les camps palestiniens. D'ailleurs, les camps palestiniens ont été d'ailleurs plus pris d'assaut par les groupes chiites que par l'armée syrienne et l'armée libanaise.
La question sécuritaire, elle est assez importante dans ces camps. Qui va assurer la sécurité désormais?
Alors, c'est tout le problème. Normalement, aujourd'hui, si on prend à la lettre la déclaration d'investiture du président Joseph Aoun, c'est qu'il doit y avoir un monopole des armes au Liban, au sens large, sur la sentence. Ça veut dire, non, ça concerne le Hezbollah, mais également les Palestiniens, qui doit revenir à l'armée libanaise. En théorie, en effet, c'est à l'armée libanaise d'assurer la sécurité des camps à partir d'un désarmement. C'est là qu'est la question, puisque si l'autorité palestinienne, le président Mahmoud Abbas, consent à un désarmement, il faut bien sûr qu'il y ait un relais qui soit assuré au plan sécuritaire, et ce relais serait vraisemblablement assuré par l'armée libanaise, dont on entend qu'elle est aujourd'hui au sens de de Max Weber, le monopole de la violence légitime au Liban.
Donc l'idée pour le Liban, donc, c'est de reprendre le contrôle sur tout son territoire.
Oui, absolument, sur tout son territoire. Dans le temps, il y a un double enjeu, hein, celui au Liban Sud, notamment sur le Hezbollah, l'application littérale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité avec le déploiement de l'armée libanaise jusqu'à la frontière avec Israël, mais également cette question des camps palestiniens, de l'armement des Palestiniens qui tenait une certaine légitimité vis-à-vis de l'accord du Caire, encore que on peut se poser la question, puisque le président Amin Gemayel, en 1982-83, avait déclaré d'ailleurs que unilatéralement il abrogeait l'accord du Caire. Comme on peut poser encore la question de sa validité, en tout cas, aujourd'hui, il est caduque et on va plutôt vers une solution qui semblerait d'ailleurs encourageante pour la sécurité et la stabilité du Liban.
Et pourquoi est-ce que cela arrive que maintenant ? Quels ont été les obstacles au désarmement de ces camps ? Pourquoi ce dossier est aussi sensible ?
Ben parce qu'aujourd'hui, disons que le Liban a retrouvé sa souveraineté. Le Liban, n'oublions pas, de 75 à 90, il a connu 15 ans de guerre. De 90 à 2005, il a connu 15 ans de tutelle syrienne. Et ensuite, à partir de 2005, il a connu, à travers le Hezbollah, une véritable mise sous séquestre stratégique. C'est-à-dire que le Hezbollah faisait l'appui et le beau temps, il n'y avait pas de décision qui se faisait sans Hezbollah, et par la Syrie, du moins jusqu'à la guerre de 2011, où elle a perdu tout pouvoir au Liban, qui tirait plus ou moins d'ailleurs les ficelles à un moment. Là, on peut dire que le Liban, véritablement, avec Joseph Aoun, le président, avec Nawef Salam, le premier ministre, retrouve une autonomie de décision, et que le Liban veut lui-même porter la question, notamment sur la question palestinienne, hein, qui constituait, les Palestiniens qui ont constitué d'ailleurs souvent un État dans l'État et une entité qui n'était pas contrôlée par l'État libanais, justement, que l'on règle visiblement le statut, notamment, des Palestiniens au Liban.
C'est la première visite de Mahmoud Abbas au Liban depuis 2017. Quel est aujourd'hui l'état de leurs relations, en tout cas, avec Joseph Aoun ?
Alors, avec Joseph Aoun, les relations semblent cordiales. Il faut savoir qu'elles sont plus chaudes encore avec Nawef Salam, le Premier ministre libanais, sunnite. Hein, vous savez qu'au Liban, il y a une répartition communautaire du pouvoir. Le président est maronite. Le président de la Chambre est chiite et le Premier ministre est sunnite. On sait que Nawef Salam est quelqu'un qui est proche des Palestiniens pour plusieurs raisons. D'une part, c'est qu'il appartient à une grande famille sunnite au Liban, les Salam, notamment son oncle Saeb Salam, qui était Premier ministre et qui, lui, justement, a toujours soutenu les revendications palestiniennes et pensait même s'appuyer sur les Palestiniens pour renverser l'équilibre entre maronites et sunnites, plutôt en faveur des sunnites. Il a présidé la Cour internationale de justice, qu'il a porté notamment la condamnation d'Israël devant la Cour internationale de justice. Donc c'est quelqu'un, en effet, qui a tout à fait l'oreille et l'attention de l'autorité palestinienne. Quant à Joseph Aoun, lui, il sera là plutôt pour faire respecter l'État libanais, et notamment la souveraineté libanaise sur la détention des armes au Liban. Mais on peut dire que les circonstances qui ont présidé à la chute du régime syrien, à l'élection de Joseph Aoun et à la nomination du gouvernement Salam, ont favorisé aujourd'hui l'établissement, disons, de relations qui s'améliorent sensiblement entre Palestiniens et Libanais, sachant également que le régime syrien d'avant, vous savez, était particulièrement hostile à l'autorité palestinienne et empêchait en effet tout arrangement.
Aujourd'hui, on parle de désarmement de ces camps palestiniens. Il y a une autre question qui n'est pas une question sécuritaire, mais qui est tout aussi importante. C'est le surpeuplement de ces camps qui abritent environ 220 000 réfugiés. Est-ce que c'est une question à laquelle ils comptent s'emparer ?
Bien sûr, je crois que ça pose question notamment sur les réfugiés. Vous savez que le nombre de réfugiés est important déjà en lui-même, mais ensuite parce qu'il y a notamment le Haut Commissariat aux réfugiés qui gère, qui est présent dans les camps, qui s'occupe notamment de gestion des camps palestiniens, et qu'ensuite c'est une population qui doit bien sûr être prise en charge. Donc la question qui se pose justement là-dessus, c'est cette population palestinienne qu'il faut encadrer, contrôler, aider bien sûr. Et une véritable politique volontariste, d'ailleurs, doit présider aujourd'hui à l'organisation de la présence palestinienne au Liban.
Mais est-ce que le Liban seul peut faire face à tout ça ?
Non, bien sûr que non. Hein. Je rappelle aujourd'hui que le Liban, rien que pour les réfugiés syriens, accueille 1,5 million de réfugiés syriens, c'est-à-dire pratiquement 25% de sa population. Imaginez la France qui accueillerait 15 millions de réfugiés d'un seul coup sur son territoire. Imaginez donc les conséquences là. Proportionnellement, le Liban, c'est celui qui paye le plus cher la crise syrienne, notamment les réfugiés syriens, hein, dont la vocation d'ailleurs de rentrer en Syrie. Là, le Liban n'a ni la vocation ni la possibilité d'assimiler une telle population. Hein. Donc, en effet, la question justement du Liban, c'est la question générale des réfugiés. Et ce petit pays paye déjà très cher notamment au conflit qui, dans la région, ont débouché sur la multiplication justement des réfugiés.
C'était François Costantini, docteur en sciences politiques et auteur de l'ouvrage « Le Liban, histoire et destin d'une exception ».
C'était Grand Angle sur Radio Orient.